Chapitre 7. 11 novembre 2010. Je ne suis pas morte dans mon sommeil, j'ai fait pire. J'ai rêvé de Pierre. Je faisais même l'amour avec lui. J'ouvre les yeux dans ma chambre d'hôtel. Toutes mes chambres sont des chambres d'hôtel depuis qu'il est parti. Les draps sont froids, les murs inconnus. Je suis mortifiée et j'ai la sensation d'avoir fait un immense bond en arrière en quelques heures. Dégage de ma vie, Pierre Duguin. Il faut que j'accepte. Il ne fera plus jamais partie de moi en dehors d'Anna, mais il fera partie de certaines nuits, des nuits décousues. En 2007, tout est allé très vite. Quand Pierre m'a annoncé son départ, je n'ai pas voulu rester aux États-Unis. J'ai engagé une avocate, une tueuse, recommandée par une amie comédienne française installée à LA depuis des années. Et je lui ai demandé d'informer Pierre de ma décision de rentrer en France avec notre fille. Il m'a téléphoné.
« Tu m'envoies des lettres d'avocat maintenant. On en est là. »
J'ai répondu « Ta gueule. » Et j'ai raccroché. J'ai peut-être ajouté « Va te faire foutre. » Mais je n'en suis pas sûre. Ma tante est décédée le 11 août. Il m'a annoncé son départ le 1er septembre. Je me suis réinstallée à Paris le 1er janvier 2008. Bonne année et bonne santé, surtout la santé, c'est le plus important. Inutile de préciser que si je n'avais pas eu Cornelia dans ma vie, j'aurais coulé à pic. C'est elle qui a déniché l'appartement lumineux des abbesses. Les lits, le canapé, un nouveau piano pour Anna, la vaisselle arrangée dans la cuisine aménagée, le parfum d'ambiance. C'est elle qui m'a ressuscité une semaine sur deux pour aller chercher Anna à l'école, manger une cochonnerie vite fait avant de rentrer à la maison. Organiser des soirées pyjama, regarder une série avec ma fille, l'accompagner aux anniversaires, à la danse, chez l'orthodontiste, lui faire un ou deux devoirs maison parce que vraiment, maman, je t'en supplie. On suivit les humiliations d'usage. Pierre et l'autre en couverture de magazine dans une eau turquoise, en train de se rouler des pelles. Et bien plus cauchemardesque encore, Pierre et l'autre devant leur nouvel appartement parisien dans le Marais. Sa main à lui, sous son pull-over à elle. Rester bloqué des heures à les regarder sur le papier. Désintégrer le magazine avant de le jeter à la poubelle et redescendre au kiosque en chialant pour le racheter. Et regarder à nouveau sa main à lui, sous son pull-over à elle, les yeux écarquillés. Pierre Duguin, un homme heureux. La belle américaine est notre acteur préféré. Par amour pour lui, elle se sacrifie et s'installe à Paris. 300 mètres carrés à Saint-Paul avec mon mari, drôle, spirituel, intelligent, sensuel, célèbre. Tu parles d'un sacrifice. Chienne de vie. Comme je ne suis pas comédienne et que les metteurs en scène intéressent autant la presse people que l'art déco, on m'a épargné les photos volées de ma mine défaite au double menton à cause de ma surcharge pondérale. En train de faire mes courses aux abbesses en essayant d'articuler correctement sous les yeux ébahis des primeurs, un kilo de pommes rouges à empoisonner, s'il vous plaît. Blanche-Neige, c'est l'autre. Moi, je suis le miroir. Comment se remet-on d'un chagrin d'amour? S'en remet-on? Et pourquoi s'en remettre? Je n'ai pas la réponse. Mais le pire du pire, qui a massacré mon ego, a été lorsqu'ils ont fait leur première émission télé ensemble. Et pas n'importe quelle émission. Pas un jeu de culture générale pour rapporter de l'argent à une association caritative. Non. Le journal télévisé. L'un à côté de l'autre, pour présenter le dernier film de François Ozon, cinéaste dont je suis folle. Et ça, Pierre le savait. Ozon les avait engagés tous les deux parce qu'il l'avait découverte et adorée dans mon dernier film. Ça, je l'ai su plus tard, et heureusement. Et qu'il souhaitait travailler avec Pierre depuis longtemps. On aurait dit une malentendante qui ne savait lire que sur les lèvres de Pierre. Le caméraman n'a cessé de multiplier les gros plans sur elle, mutique et sublime. On frappe à ma porte. Ma vie est devenue un théâtre de boulevard. On ouvre les portes, on claque les portes, on s'introduit par la porte. Petit déjeuner? Pas le genre de la maison. Soutkovski qui vient m'assassiner? Allons-y une bonne fois pour toutes. C'est Adèle, dans ses vêtements de la veille. Jean, pull bleu marine. te réveilles ? Me demande-t-elle, l'air gêné. Non. J'ai dormi ici, murmure-t-elle. Je sais. Nous nous sourions. Elle rougit et baisse les yeux, comme à l'époque du caméscope. On va prendre un petit déjeuner en bas ? J'adopte le ton le plus léger dont je suis capable, mais je ne pense qu'au fait qu'elle souhaite aller à Cannes. Je ne pense qu'à ça. Je m'en fiche qu'elle ait dormi avec Paul. Ok, aujourd'hui je fais midi 22h. Adèle commande un café allongé et moi un triple expresso. Longue natte dans le dos, roule des yeux. On fait pas ça. Alors trois cafés dans trois tasses, l'une à côté de l'autre, s'il vous plaît. Elle n'insiste pas, voyant que je ne suis pas d'humeur, et pose une panière remplie de viennoiseries sur la table. Les joues d'Adèle sont rose pâle. Reverrai-je un jour mes joues rosir ? Dis-moi, Adèle, tu es allée à Cannes récemment ? Non, pourquoi ? Demande-t-elle en mordant dans un croissant. Je ne suis jamais allée dans le Midi. Peut-être l'année prochaine ? Mes filles veulent m'emmener à Menton pour la fête du citron. Pourtant, j'ai du mal à en venir aux fêtes. Pourtant quoi ? Sur le GPS de ta Citroën, il y a Cannes. Ah ? Peut-être. Tu sais, je la prête à tout le monde. Ah bon ? Je suis presque déçue. À qui ? J'insiste. Des amis de mes filles, celles qui ont le permis. Je croyais que... Que quoi, Agnès ? Que tu étais mêlée à la disparition de Charpie. Elle plonge ses grands yeux dans les miens, en souriant étrangement. Tu enquêtes sur moi ? Pas du tout. J'ai fait une insomnie et ce détail m'est revenu. La nuit, tout devient obsessionnel. Je me suis souvenu avoir aperçu le nom de cette ville sur l'historique de ton GPS. Et c'est là que Charpie vivait et qu'il est mort. Elle attaque son deuxième croissant. Je crève de faim ce matin, j'ai pas eu le temps de dîner hier soir. Tu as passé une bonne nuit ? J'ose lui demander pour détendre l'atmosphère. Tu vois que tu enquêtes sur moi ? J'éclate de rire. Elle boit une longue gorgée de café et commande une orange pressée. Nathalie et Elias t'ont raconté qu'ils l'ont vue à Cannes, en sortant du palais des festivals ? Je suis surprise qu'elle rebondisse sur Charpie. Peut-être souhaite-t-elle détourner la conversation pour ne pas me parler de Paul ? Oui ? Et ils m'ont raconté qu'ils l'ont suivi sur la croisade, c'est fou. Il s'est sauvé et... Adèle me coupe la parole. J'espère que tu m'en veux pas pour Paul. Pourquoi je t'en voudrais ? Elle se mord la lèvre avant de poursuivre. Tu n'avais pas des vues sur lui ? Je suis tellement surprise par sa question que j'en ai les larmes aux yeux. Adèle reste interdite. Ses joues virent au rouge écarlate. Je lui avoue que j'adorerais avoir des vues sur quelqu'un, mais que ça ne m'arrive plus. Que mon intérêt amoureux pour autrui est en cendres, comme ma pauvre tante. Elle prend mes mains et murmure dans un souffle. Plus fort que moi. Écoute, Adèle, si t'as passé une belle nuit, c'est génial. Et tu ne dois rien à personne. Après tout, tu m'as dit toi-même, chacun chez soi. Adèle se décompose subitement. Adèle, ça va ? Si tu es tombée amoureuse de Paul, c'est pas grave. J'ai voulu le tuer. Tout à coup, j'imagine Paul, gisant dans le lit là-haut, tué avec son arme de service par mon amie d'enfance, celle qui ne parlait pas. « Charpie !» chuchote-t-elle en posant ses lèvres sur la tasse.